Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Margot Haddad.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo.com. Au programme de cette émission, Femme Actuelle devient le premier site féminin en France. La ligne éditoriale a évolué post-Covid pour s'adapter davantage à ses lectrices. On en parlera dans un instant avec Claire Bernard, directrice marketing et business développement de Prisma Media. Autre titre de l'éditeur, c'est Dr Good avec Michel Simès. Prisma Media en fait une nouvelle formule à partir du 11 juillet prochain. On vous fera découvrir les nouveautés dans un instant. Voilà le programme. C'est parti.
Hebdo.com sur BFM Business.
Et pour cette émission, je suis entourée de deux chroniqueurs que vous connaissez, mais qui ne sont pas les chroniqueurs habituels autour de ce plateau. Rebecca Blanc-Lelouch de BFM Business et Julien Gasqui de BFM Business. Bonjour, merci d'être avec nous pour cette dernière de la saison.
Avec plaisir Margot, merci à vous.
Bonjour Margot.
On passe tout de suite au Focus.com. Allez, c'est parti.
BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com.
Claire Bernard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la directrice marketing et business développement de Prisma Media. On est ravis de vous avoir sur ce plateau pour deux actualités phares de Prisma. Quelle est la ligne éditoriale, tout d'abord, de Femme Actuelle ?
Alors, Femme Actuelle, c'est la marque qui écoute les femmes depuis plus de 38 ans. Donc c'est vrai que même si les besoins des femmes ont évidemment évolué depuis toutes ces années, on a toujours le même contrat de confiance avec les femmes. On souhaite leur rendre leur quotidien plus facile et les aider à faire les bons choix pour elles.
Combien vous avez d'abonnés, combien de visiteurs
Alors ce qui est important de savoir, c'est que Femme Actuelle, c'est la première marque féminine en France, avec 21 millions de contacts par mois. Donc on a à la fois le magazine, c'est 450 000 exemplaires par semaine vendus. Et puis également notre site internet, donc on en parlait, femmeactuelle.fr, à 17 millions de visiteurs uniques. Donc on est numéro 1 face à toute l'offre de sites féminins.
Alors vous avez plusieurs thématiques dans Femme Actuelle, société, nourriture, plat, comme on appelle ça, food. Laquelle marche le mieux ?
Alors Femme Actuelle, c'est une marque généraliste, c'est vrai, vous l'avez noté, il y a plein de thématiques, que ce soit dans le magazine ou sur le site. Nos vrais rendez-vous, donc il y a évidemment l'actu, mais pas que, la santé, le bien-être, c'est des rendez-vous très importants pour les lectrices, que ce soit dans le magazine, mais aussi sur le site internet, et puis la cuisine également. On a aussi des thématiques qui plaisent beaucoup, comme la mode et la beauté, puisque c'est une marque féminine, donc les femmes s'y intéressent. Et puis l'horoscope.
L'horoscope,
exactement.
Rebecca,
Femme Actuelle est donc aujourd'hui le premier site féminin en France. À quoi ressemble l'évolution de Femme Actuelle ces dernières années ?
Donc l'audience du site ?
L'évolution dans son ensemble ?
On est passé en fait sur... parce qu'il y a plusieurs choses dans votre question. Donc c'est vrai que le trafic du site s'est fortement développé de manière vraiment très rapide ces dernières années, puisqu'on est passé de 10 à 17 millions de visiteurs uniques. À partir de 2019, on a vraiment vu une envolée avec une forte progression à la fois des attentes sur l'actu, donc tout ce qui est divertissement, mais aussi, j'en parlais, la santé et la cuisine, qui sont devenues des très, très grosse rubrique dans le site.
Alors, on innove, bien entendu, sur le digital, mais comment on innove sur le print ?
Alors, la marque de fabrique de Prisma, c'est vrai que c'est être à la fois savoir produire des contenus de qualité et répondre aux attentes des lectrices. Donc, évidemment qu'on les écoute, on va les voir. Donc, on organise des études et puis on les observe aussi. On a forcément des indicateurs et quantitatifs avec les ventes des magazines, le trafic sur nos rubriques qui nous permettent de savoir ce qui les intéresse.
Qui sont les lectrices de Femme Actuelle ? Qui sont ces femmes ?
Alors, l'âge moyen de la lectrice Femme Actuelle, c'est 49 ans. Et on a la chance d'avoir un lectorat, que ce soit print ou digital, qui est très représentatif de la population française. Donc on a à la fois des lectrices qui vivent au fin fond de la France, dans les petites villes, mais aussi dans des grandes villes, et qui ont des centres d'intérêt variés, même si elles se regroupent, comme je le disais, sur certaines rubriques phares.
Alors, vous le dites très bien, hein, les attentes de vos lectrices ont évolué. Elles ont évolué dans quel sens ?
En fait, c'est que les femmes ont elles-mêmes beaucoup évolué. Dans les années 80, quand le magazine a été lancé par Axel Gantz, évidemment que les femmes n'avaient pas les mêmes besoins. L'évolution des droits pour les femmes ont beaucoup bougé. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'idée, c'était de leur donner les clés de la cité, de les informer sur leurs droits. Elles avaient besoin d'informations sur le droit et la santé. Alors qu'aujourd'hui, les femmes sont très informées et en termes d'émancipation aussi. Les choses ont beaucoup changé. Là, aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir profiter de la vie, s'affranchir d'un certain nombre de diktats, parce que quoi qu'on en dise, on s'attend à ce que les femmes soient des épouses accomplies, des employées exemplaires, des mamans modèles, tout ça en rentrant dans un 38 et en se disant que la vie est facile.
Je crois que c'était dans une interview avec Pascal Soquet qui disait très, très justement, elles veulent lire Femme Actuelle sans le mari et sans les enfants. Elles veulent avoir leur moment tranquille.
Exactement, c'est vrai que c'est une lecture assez cocon, Femme Actuelle, même si on peut le faire circuler dans la famille. Mais c'est vrai que c'est un magazine qui est devenu vraiment, pour elle, depuis 38 ans, un vrai rendez-vous. Et on est là pour les accompagner.
Comment on fait pour aller chercher plus de jeunes
Alors c'est vrai que y a des habitudes de consommation des médias qui sont pas les mêmes quand on a 30 ans ou quand on a 50 ans, puisque la presse magazine, c'est vrai, un tout petit peu moins consommée quand même par les jeunes. Donc c'est pour ça, fortement développé notre offre numérique et notre présence sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que comme on est une marque généraliste, on s'adresse aux femmes à tous leurs moments de vie. Mmh. Donc avec, en passant du désir d'enfant ou à la ménopause, si je prends des thématiques très proches des femmes.
C'est quoi la tranche d'âge la plus jeune pour Femme Actuelle ?
Comme je disais, en fait, on est assez représentatif de la population française, donc on n'a pas le même âge toutes les deux. Mais si on ouvre Femme Actuelle et on commence à le lire, on va peut-être pas s'intéresser avec autant d'intérêt aux mêmes articles, mais on trouvera quelque chose qui va nous intéresser toutes les deux.
Alors j'aimerais parler d'un autre projet éditorial que vous avez lancé il y a peu de temps, c'est Bien dans ma vie, by Femme Actuelle. Ça en est où exactement ?
Alors, merci de me poser la question, parce que c'est vrai qu'on est très fiers de ce nouveau magazine. Donc, c'est un nouveau mensuel qu'on a lancé le 5 mai. Le numéro 3 vient de paraître. Donc, les premiers résultats, parce que j'ai les ventes que des deux premiers numéros, sont très encourageants. Le deuxième numéro nous montre qu'il y a un vrai bouche à oreille, puisqu'on a fait plus 50% en vente sur ce deuxième numéro. Sur ce deuxième numéro, oui, tout à fait. Donc on est vraiment très contents. Et peut-être pour répondre à une de vos questions tout à l'heure, la particularité sur ce lancement, c'est qu'on l'a co-construit avec des lectrices. C'est-à-dire qu'on est allé voir un groupe de lectrices à plusieurs reprises et les mêmes. Et on leur a proposé un certain nombre de rubriques. Et elles nous ont fait leur feedback pour arriver au final au magazine que vous avez pu découvrir.
Rebecca ?
Mais ça reste essentiellement senior.
Alors, l'âge n'est plus notre critère, notre clé d'entrée. On s'est rendu compte, justement, en écoutant ces lectrices qui avaient 50 ans et plus, qu'elles ne se positionnent pas, évidemment, en tant que seniors. Et elles, ce qui les intéresse, c'est profiter de la vie, c'est beaucoup plus de légèreté. Donc, notre souci, c'est vraiment d'être sur cette ligne éditoriale de l'épanouissement de soi.
Mais vous parlez du bouche à oreille, justement, pour faire connaître une publication. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire connaître une nouvelle publication comme celle-ci ?
Alors, le contrat de base, c'est évidemment d'avoir un magazine, une offre éditoriale qui réponde à des attentes. Donc ça, c'est, en effet, faut faire le trou avec ça. Et après, il faut avoir un peu de moyens, il faut communiquer. Donc si on peut communiquer en télé, en radio, en affichage, c'est ce qu'on a la chance de pouvoir faire chez Prisma Media.
Et vous en faites une priorité, ça ?
Non, c'est pas une priorité, parce qu'on peut pas toujours le faire et on s'adresse pas toujours à une cible pour laquelle communiquer en télé est nécessaire. Après, en effet, il faut pouvoir faire ce que je fais là aujourd'hui, avoir la chance d'être invité sur des plateaux pour pouvoir en parler. Et puis, on a des liens très très forts avec le réseau de vente. Les marchands de journaux, c'est aussi le nerf de la guerre qui nous mettent en bien, ils nous positionnent bien parce qu'ils sont maîtres de leur point de vente. Donc d'avoir une belle exposition, c'est ce qui fait aussi peut garantir le succès.
Julien,
est-ce qu'il va y avoir peut-être des nouvelles innovations à venir, comme la plateforme Vivante qui a été lancée en 2021
Alors oui, c'est vrai que chez Prisma Media, l'innovation, c'est vraiment au cœur de notre métier. Donc on réfléchit tout le temps, on travaille vraiment sur des nouveautés. Vivante a été lancée, c'est un programme vidéo donc, qui est toujours actif en octobre 2021 sur la santé. Donc on le fait toujours vivre et c'est vrai qu'on a d'autres sujets sur lesquels moi je travaille. Il y a notamment autour de la ménopause, un vrai sujet sur lequel nous on souhaite s'investir.
Claire Bernard, une dernière question concernant les médias féminins. Comment on se développe sur le digital, avec le féminin en particulier ?
Il faut être assez expert, à la fois dans la production de nos contenus et aussi techniquement. Parce que c'est vrai qu'un site internet, c'est des millions de lignes de code. Donc ce qui est important, c'est vrai que c'est d'avoir un site qui nous permette aussi d'être vu. Donc on a à la fois des journalistes qui identifient, selon les Google Trends, ce qui est recherché par les lecteurs. Donc on produit les contenus qui sont recherchés, puis d'avoir techniquement l'interface qui nous permet vraiment de pouvoir adresser tous ces contenus.
Par quoi ? Par des applications par exemple ?
Ça peut être des applications, mais même tout simplement un site internet. S'il n'est pas assez solide, vous avez tout d'un coup un papier, un article qui génère beaucoup de trafic, et bien le site est en erreur. Donc, du coup, personne ne peut le lire. Donc, c'est pour ça que je dis que la technique est ultra importante. Et après, on a des leviers marketing, comme dans tout univers. Donc, c'est de l'achat de mots-clés ou pas. En tout cas, on active tout ce qu'on peut pour générer un maximum de trafic.
Merci beaucoup, Claire Bernal. Vous restez avec nous parce qu'on vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Et tout de suite, c'est la chronique TechCom, votre chronique TechCom, Julien Gasqui.
BFM Business, Hebdo.com, Tech.com.
Alors Julien, on commence votre chronique avec le Digital Market Act et le Digital Services Act qui ont été adoptés par le Parlement européen. Les géants du numérique vont donc devoir se conformer à de nouvelles obligations et notamment s'agissant de leur activité publicitaire.
C'est un coup de massue géant pour le business model des grandes plateformes comme Meta, comme Facebook, comme Amazon, comme Google. L'idée de ces règlements, eh bien, c'est de faire émerger d'autres plateformes européennes qui pourraient rivaliser avec ces grandes plateformes. On va mieux réglementer le ciblage publicitaire des grandes plateformes américaines notamment. Alors on va dans le vif du sujet. Premier changement, les plateformes ne pourront plus recroiser les données des utilisateurs qui utilisent plusieurs de ces services comme Meta avec Facebook et Messenger. Désormais aussi, impossible pour une plateforme d'utiliser des données sensibles, vos opinions politiques, votre religion, votre orientation sexuelle, impossible pour elle d'utiliser ça. Possible aussi de connaître gratuitement les critères de ciblage si vous êtes utilisateur. Sur quoi se basent les plateformes pour vous cibler, vous adresser de la publicité, ce sera possible de connaître ça. Et puis enfin, interdiction pour une plateforme d'adresser de la publicité ciblée à des mineurs.
Et quelles vont être les sanctions en cas de non-respect ?
Elles vont être très lourdes. Sachez qu'en cas de non-respect, 10% du chiffre d'affaires mondial des plateformes pourra être demandé. Ça correspond à peu près à 40 milliards d'euros si Amazon est condamné en Europe. 80 milliards d'euros pour Amazon en cas de récidive, soit 20% de son chiffre d'affaires en cas de récidive aussi. Les plateformes pourront céder des activités. Elles seront contraintes de le faire. Ce sera la Commission européenne qui va se charger de ce contrôle. Elle va se doter de moyens. 30 millions d'euros annuels vont être alloués par la Commission européenne. Et ce sera aux plateformes de payer ces 30 millions d'euros. 150 experts aussi seront engagés à temps plein pour analyser la data. À noter enfin que ces règlements européens seront applicables dès 2023 si l'Union européenne et si les États membres de l'Union européenne, à la fin de ce mois-ci, approuvent ces règlements.
Et d'ailleurs, ces nouvelles règles sont très scrutées aux États-Unis, Julien.
Eh oui, tout à fait, c'était déjà le cas avec le RGPD, ce règlement sur la protection des données personnelles. Les autorités américaines, elles étaient très vigilantes sur ce RGPD. Elles se sont même adaptées avec, en Californie, eh bien, des décisions similaires qui ont été adoptées. Surtout, hein, ces plateformes, eh bien, elles ne peuvent pas ignorer les règles en Europe, même si eh bien, leurs activités sont mondiales. Leurs services à ces plateformes, ils sont globaux et donc des règles en Europe impacte quand même des activités aux États-Unis et dans le reste du monde. Avec ce DMA, avec ce DSA, eh bien, les plateformes pourraient effectivement s'adapter aussi et les autorités américaines réfléchissent déjà. La Federal Trade Commission et le Department of Justice qui sont chargés de ces questions aux États-Unis pourraient aligner leur position sur les mêmes principes que l'Union européenne.
Merci beaucoup Julien et on passe tout de suite au JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch.
BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
Et Rebecca, on commence tout de suite avec une nouvelle alliance dans la publicité digitale en France. Racontez-nous tout.
Et elle s'appelle tout simplement l'Alliance Digitale. Ce sont les deux principales associations du secteur, IAB France, qui représente les acteurs de la publicité digitale, et MMA, qui fédère les acteurs du marketing sur mobile, qui s'unissent. Le but de ce rapprochement, devenir un poids plus lourd dans les discussions avec les pouvoirs publics. Cette nouvelle structure sera dirigée par Nicolas Rueil, vice-président de Criteo, et elle regroupe 250 membres, parmi lesquels TEDS, Brut ou encore Publicis Media, et aura pour budget 1 million d'euros. Les dossiers sur la table sont nombreux, avec en priorité le système de protection des données d'Apple, la valorisation des ad tech ou la fin des cookies tiers sur Google.
Et cette semaine, Rebecca, France Télévisions présentait sa nouvelle grille avec comme objectif proximité et numérique.
Sur l'immense scène d'un entrepôt à la Villette, Delphine Ernotte a déroulé la nouvelle organisation des programmes du groupe. Alors, dans les grandes lignes, en priorité, l'information de proximité avec notamment la refonte de l'offre régionale via France 3 et le numérique avec la montée en puissance attendue de la plateforme en ligne France.tv. Les journaux nationaux de France 3, le 12-13 et le 19-20, seront supprimés dès septembre 2023 et seront remplacés par 24 journaux télévisés lancés intégralement depuis les régions.
Et aussi une autre chaîne, M6, qui s'installe au capital du vendeur de meubles Miliboo.
À partir de maintenant, M6 détient 21% de Miliboo. Les deux structures avaient conclu en 2019 un partenariat de 3 ans visant à échanger de l'espace publicitaire sur les chaînes du groupe contre des obligations convertibles en actions. Et donc, à l'issue de ces 3 ans, M6 a choisi de concrétiser son engagement aux côtés de cette PME savoyarde.
Et d'ailleurs, le montant de cet investissement s'élève à près de 4 millions d'euros. Et maintenant, on va parler Google. Google qui a réagi à la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement, Rebecca.
Après le positionnement des autres, Google a, elle, décidé de supprimer les données de toutes les personnes qui auraient cherché une clinique pour avorter grâce au moteur de recherche. Conséquence, cela empêchera un État américain qui interdit l'avortement de lui demander de lui transmettre les informations collectées. Jusque-là, les géants de la pub étaient restés silencieux à ce sujet. Google répond donc à la pression des élus démocrates et des associations qui appelaient à mieux protéger la vie privée des utilisateurs.
Et on en parle depuis le début de cette saison, Rebecca. Le podcast, on n'entend que ça. Et on termine justement avec la plateforme Magellan qui annonce qu'elle se fait racheter par l'agence de presse ETX Studio.
La plateforme de podcast payant, fondée en 2018 par Mathieu Gallet et Arthur Perticoz, devient une filiale à 100% d'ETX Studio. Avec cette acquisition, ETX Studio souhaite accélérer dans l'audio et vise les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires dès l'année prochaine. Pour l'ensemble du groupe, Mathieu Gallet devient président non exécutif d'ETX Studio et reste directeur général de Magellan.
Merci beaucoup Rebecca et on passe tout de suite au décryptage.
BFM Business, Hebdo.com, décryptage.
Et nous sommes toujours en plateau avec Claire Bernard de Prisma Media. Bonjour à nouveau. On va parler maintenant de Dr Good, cette publication qui fait peau neuve bientôt, hein, le 11
oui,
juillet.
Lundi prochain.
Alors comment vous êtes devenu l'éditeur de Dr Good, parce que c'était il y a à peine quelques mois. Comment ça s'est déroulé, cette passation ?
Prisma a repris la licence du magazine Dr Good le 1er juin. Donc on a eu des échanges avec Webedia et Reworld, l'ancien éditeur du magazine, très utile en fait pour reprendre l'activité.
Et ça s'est passé comment?
Ça s'est bien passé, en fait.
Il n'y a pas eu d'accro, c'est ça que
Non, c'est pour ça que je vous disais, c'est des échanges professionnels et utiles pour nous, pour vraiment récupérer un certain nombre d'éléments pour utiliser le magazine et la marque, et voilà.
Rebecca ?
Que viennent chercher les lecteurs de Dr Good dans ce magazine-là, qu'ils n'auraient pas pu trouver pour autant dans un autre magazine santé ?
Alors sans surprise, Michel Simès, clairement. Clairement, on est allé à la rencontre des lectrices pour justement se mettre dans le bain, un peu comprendre comment fonctionne le magazine. Et on s'est rendu compte qu'elles étaient littéralement sous le charme, c'est vrai, de Michel Simès. Alors bien sûr, c'est une personne très charismatique, mais pas que. En fait, il est vraiment expert, reconnu pour comme étant un médecin valable, au-delà même de son expertise d'origine. Donc dans le magazine, évidemment, elles viennent retrouver ce médecin copain qui a un ton.
Vous dites « elle », mais ça s'adresse pas.
Alors c'est vrai que les acheteurs sont plus des acheteuses. Après, c'est vrai que le magazine Dr Good est non-genré, on va dire, et traite de la santé pour les hommes et pour les femmes. Et il y a même une rubrique qui est dédiée aux hommes, c'est vrai.
Et donc la cible, en fait, c'est qui concrètement? C'est les femmes, mais quel âge?
Alors, le lectorat est plutôt...
CSP+.
Non, en fait, c'est assez populaire. Et quand je dis populaire, c'est dans le sens où c'est assez global, en fait, en termes de répartition de la population française. Après, en termes d'âge, on est plutôt sur un lectorat qui est proche des 50 ans et plus.
D'accord.
Voilà, puisqu'on s'intéresse un peu plus à sa santé quand on vieillit. Voilà.
Oh, je ne sais pas si c'est vrai, ça. Mais vous dites que Dr Good fait peau neuve. Ça représente quoi, concrètement, de faire peau neuve?
Comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que Prisma, on aime bien faire... on a un vrai savoir-faire sur les contenus. On a des équipes de journalistes qui ont à cœur d'apporter leurs pattes et c'est vrai, d'écouter les lectrices. Donc on a voulu faire une nouvelle formule pour apporter des nouvelles choses. Et puis comme on a écouté les lectrices, elles nous ont évidemment parlé de tout ce qu'elles aimaient dans le magazine. Et donc, on a voulu, en surfant là-dessus, apporter des choses nouvelles qu'elles voulaient, en fait. Parce qu'il y avait
ça
des attentes.
Quoi concrètement?
On a 6 nouvelles rubriques.
D'accord.
Par exemple, une rubrique sur les enfants, beaucoup plus de témoignages positifs, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que la santé, ça passe aussi par un état d'esprit positif pour aller bien. On traite aussi des médecines douces, alors qu'auparavant, ce n'était pas du tout traité. Parce que c'est une attente, c'est vrai, d'avoir aussi des éléments sur toutes ces médecines alternatives. Auquel on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. On a changé la couverture aussi, on lui a apporté, on la voit, un peu plus de couleurs, tout en gardant l'ADN et évidemment le logo, qui est un élément de reconnaissance. Et puis la maquette aussi, qu'on a twistée, apporté un peu de modernité. C'est la première nouvelle formule du magazine depuis qu'il a été lancé.
Rebecca ?
Quelle va être votre stratégie de communication pour ce nouveau lancement ?
Alors, même si le magazine se porte bien, c'est toujours important de faire savoir. Donc, il y a pour développer la notoriété sur Dr Good, on a mis en place une campagne télé, une campagne radio, de l'affichage, une campagne display aussi sur Internet. Et puis, en point de vente, pour développer l'intention d'achat et vraiment l'envie de passer à l'acte. Des PLV, des petits ballons, puisqu'on a fait un clin d'œil à la couverture de ce mois-ci qui est sur le souffle.
Et pourquoi alors les Français s'intéressent autant à la santé? Ça, c'est ma première question. Et peut-être deuxième question, c'est quoi vos objectifs? Vous étiez c'était à 130 000, je crois. Il y avait 130 000 magazines qui sont vendus chaque mois, chaque numéro. Là, c'est quoi l'objectif?
D'accord. Donc pour répondre à votre première question, pourquoi la santé intéresse autant les Français? Donc le Covid, évidemment, puisque on s'est tous rendu compte que, un, on était vulnérable, deux, que les choses pouvaient s'arrêter vite.
Vous avez vu une bascule à ce moment-là?
Ça a été un accélérateur. Il y avait quand même une tendance qui émergeait. sur le bien-être, donc certaines personnes, mais là ça a été un vrai massificateur, hein, ce Covid, et donc vraiment les gens se sont dit, un, il faut profiter de la vie, deux, il faut que je prenne soin de moi. Je vois bien que les experts ne savent pas tout. Donc comment je peux moi aussi prendre en main ma santé? Donc les gens s'informent beaucoup plus. Et après, sur nos objectifs de vente, c'est évidemment d'aller beaucoup plus haut que ce qu'on constate jusqu'à présent. Donc c'est de dépasser les 150 000 exemplaires.
Alors, d'accord. Concrètement, qu'est-ce que fait Michel Simès dans le magazine, à part être l'égérie un peu? Est-ce qu'il s'implique autrement?
Oui, Michel est très impliqué. Donc heureusement pour lui, on n'a pas besoin de lui au quotidien. Déjà, c'est un bimestriel, donc on ne le sollicite pas tous les jours. Mais il intervient pour valider le sommaire, pour échanger avec la rédaction, puisque évidemment on a une rédaction, échanger sur les gros dossiers. Et puis, il valide la couverture. Et évidemment, il participe au shooting de la couverture. Sur certains sujets, il est sollicité de plus près, vu qu'il a ses propres rubriques. Et puis, la communication, quand on a besoin de lui, il se met évidemment à notre disposition pour parler du magazine et rencontrer des lecteurs si besoin.
Alors ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Prisma, hein, de mettre en avant des égéries. On l'a vu avec Sophie Davant, par exemple, également. Pourquoi ça marche autant ?
Alors, pour corriger un petit truc, parce que pour mes autres amis éditeurs, ils ne seront pas contents. Donc, S de Sophie Davant, ce n'est pas le groupe Prisma Média qui l'a lancé. Donc, il n'appartient pas au groupe, c'est CMI, oui, tout à fait. Donc, il y a d'autres éditeurs qui ont des magazines d'égérie. Et c'est vrai que c'est une nouvelle tendance sur laquelle nous-mêmes, on a voulu aller, parce que ça permet le fait d'impliquer une personnalité. La personne vient avec son expertise, sa notoriété, ses valeurs. Et donc, ça permet aussi de gagner du temps dans ce qu'on veut raconter aux lectrices. Ça crée une relation de proximité beaucoup plus forte et différente de ce qu'on fait avec un magazine, nos autres magazines. Donc c'est en ça que c'est intéressant.
Et est-ce que vous allez lancer d'autres magazines basés sur des fortes personnalités
Oui, on y réfléchit. Oui, je peux pas je vais pas vous le dire, parce que évidemment, on travaille dans un univers extrêmement concurrentiel, donc je peux pas vous révéler ce genre d'informations. Mais oui, bien sûr, ça fait partie des
projets 2022,
des axes sur lesquels on travaille. Oui, 2022, 2023, oui.
Merci beaucoup Claire Bernard d'avoir été en plateau avec nous. Merci à mes deux chroniqueurs de choc qui m'ont suivi toute cette
avec
saison.
Avec plaisir Margot, c'était un plaisir.
Rebecca et Julien, merci à vous. Okay, Margot. Voilà, on embrasse bien entendu Frédéric Croix et Eric Jaoui qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais voilà, c'était la dernière de cette saison. J'ai été ravie de vous accompagner tout ce temps et j'espère à très vite.
BFM Business, Hebdo.com, Tech.com.